Bosco Douimane.
Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 7 novembre 2019. Voici les grands titres de cette édition. La Commission électorale nationale indépendante appelle tous les Burundais qui se sont fait enrôler pour le référendum de 2018 à aller vérifier si leur nom figure toujours sur les listes électorales afin d'être garanti qu'ils auront droit au vote en 2020. Le président de la CENI rassure également que les moyens financiers sont disponibles et suffisants. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et le Bureau burundais de normalisation affirme que la qualité des boissons Brarudi a changé et appelle cette entreprise à se ressaisir. Le directeur général du BBN sera notre invité dans ce journal. Une forte pluie a endommagé des champs de culture en commune Mugina de la province et Chibitoke. Les victimes de ces intempéries réclament de l'aide. Voilà pour quelques titres.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Rebonjour. La Commission électorale nationale indépendante appelle tous les Burundais qui se sont inscrits et enrôlés pour le référendum de 2018 à aller vérifier si leur nom figure toujours sur les listes électorales afin d'être garanti qu'ils auront droit au vote en 2020. Le président de la CENI l'a dit ce jeudi au cours d'une conférence de presse et c'était sur l'état d'avancement des préparatifs aux élections générales de 2020. Pierre Clavel-Kazihissé a souligné que c'est le même appel pour ceux qui ne s'étaient pas fait inscrire et ceux qui ont perdu leur carte d'électeur.
Nous abordons maintenant une autre phase, à savoir la publication des listes électorales provisoires qui va avoir lieu du 9 au 12 décembre, en même temps que l'inscription au rôle, l'inscription partielle au rôle. Cet enrôlement partiel concerne surtout les personnes rapatriées qui n'avaient pas eu le temps de se faire inscrire lors de l'enrôlement qui a eu lieu avant le référendum constitutionnel. Nous demandons donc à la population, à toute la population, d'abord de venir consulter les listes électorales provisoires qui seront affichées du 9 au 12 décembre pour voir si leurs noms sont toujours sur les listes, si leurs noms sont correctement écrits pour que, si besoin est, si jamais ils ne retrouvent pas les noms, ils puissent, n'est-ce pas, s'adresser à l'agent d'affichage qui sera là pour pouvoir, n'est-ce pas, remédier à la situation.
Le président de la CENI se réjouit également de l'état d'avancement des préparatifs au processus électoral prochain, tout en ajoutant que les moyens financiers sont disponibles et suffisants, sans toutefois préciser la somme nécessaire. On l'écoute.
Vous savez que pour les élections 2020, le gouvernement a bien dit qu'il prendra en charge tout le financement de ces élections. Et il a déjà commencé à le faire parce que nous avons déjà réalisé un ensemble d'activités que j'ai citées tout à l'heure. Et vous savez, il n'y a eu aucune activité qui a été reportée ou annulée parce qu'effectivement, il y avait un manque de budget quelque part. C'est-à-dire, notre rôle est d'organiser et nous sommes déjà assurés que les moyens sont disponibles. Je dirais même que c'est une très bonne chose quand une mission pareille nous est confiée et que nous avons déjà l'assurance que tous les moyens sont là. Dans les faits, cela s'est déjà prouvé. Nous continuons à organiser et il n'y a eu aucun moment où quelconque, disons, pénurie de moyens s'est manifestée. Donc nous avons l'assurance que les moyens sont là et que nous pourrons organiser sans aucun souci.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Clavel-Kazihissé, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme veut que les défenseurs des droits humains soient bien outillés pour assurer une bonne protection des droits pendant la période électorale. Selon cette commission, la période électorale se caractérise parfois par des tensions, raison pour laquelle des mesures préventives doivent être prises. Suivez Tcha Bamazi, représentant du directeur du Centre régional des Nations Unies pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale. Il s'exprimait au cours d'une formation en monitoring des droits organisée en collaboration avec la CNIDH.
Le rôle de la société civile est fondamental en période électorale, en particulier la société civile engagée dans la défense et la protection des droits de l'homme. Sachant qu'en période électorale, les questions des droits de l'homme sont très sensibles, il était important pour nous, en tant que partenaires, en collaboration étroite avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en tant que mécanisme national burundais de protection des droits de l'homme, de nous entendre pour encadrer la société civile, lui donner tous les moyens techniques et les connaissances nécessaires pour faire son travail de surveillance, mais aussi de sensibilisation, d'éducation de la société sur l'impérieuse nécessité de protéger les droits de l'homme, de les respecter, mais aussi de les promouvoir, y compris en période électorale où les tensions politiques peuvent avoir une incidence négative sur les droits de l'homme.
Je vous l'avais dit dans les titres, une forte pluie mêlée de grêle s'est abattue ce mercredi sur la colline Kirinzi de la commune Mugina en province Cibitoke. Des champs de culture ont été endommagés. Les victimes de ces intempéries demandent assistance. De son côté, Jovite Bayavougué, administrateur communal, appelle sa population à rester unie. Suivez-la au micro de Jackson Wahati.
Dans la soirée du 6, c'est la colline Kirinzi de la zone Rugajo. Une pluie torrentielle mêlée de grêle a beaucoup frappé sur les cultures sur cette colline. Les cultures de maïs, de manioc, haricots, même des bananes ont été gravement abîmées. Ce que je peux dire à la population, c'est de rester unie car toute la population est dans la même situation. C'est toute la colline. Et il faut aussi de ne pas croiser les mains. Il faut reprendre, par exemple, les maïs, c'est possible. Les manioc, c'est possible. On peut encore replanter parce qu'il y a de la pluie. C'est dommage, c'est vraiment désolant parce que d'ici le mois de décembre, on allait commencer à récolter.
Jovite Bayavougué, administrateur de la commune Mugina, en province Cibitoke. La société Bousseco de fabrication du ciment dit être déjà informée des spéculations de vendeurs qui se fixent des prix de ce produit. Vera Izere, assistante du directeur général de cette société, réagit après que certains habitants de la mairie de Bujumbura se soient lamentés que le ciment n'est pas facile à trouver. Elle appelle les services habilités à faire respecter les prix officiels fixés, expliquant que la production actuelle du ciment est suffisante. On l'écoute, elle est au micro de l'Inibel Nibikira.
Des informations pareilles nous parviennent qui disent qu'il y a des spéculations sur le marché quant à la commercialisation du ciment, que ce soit de type 32.5 grade ou le ciment de type 42.5. Ce n'est pas de la part de Bousseco que ces spéculations sont en train d'être donc de s'observer sur le marché. On a déjà informé les prix officiels. Dernièrement même, on a insisté en disant que Bousseco n'a jamais élevé les prix. Pour le ciment 32.5, c'est 24.500 et pour le ciment de type 42.5, c'est 30 000. Quand ce genre de spéculation s'observe sur le marché, avant tout, vous savez qu'il y a, il y a différents types de commerçants de ciment. Il y a ceux qu'on appelle les grossistes, les ACA, agents commerciaux agréés. Il y a aussi les détaillants qui sont déjà informés sur les prix officiels. Et lorsqu'on distribue le ciment, lorsqu'il y a la livraison du ciment, ce sont à eux. Ils sont interpellés donc à respecter les prix officiels. Ils doivent respecter les prix officiels.
Une opinion parle de faible production par la Bousseco. Raison pour laquelle les prix sont élevés. Est-ce que vous êtes du même avis?
Pas du tout. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a spéculation s'il n'y a pas de ciment? Le produit est disponible. Non, nous sommes en train de produire. Nous travaillons d'arrache-pied pour la production du ciment.
Qu'est-ce que vous demandez aux services habilités?
Avant tout, je dirais que nous coopérons bien. Il faut que même les autorités administratives sachent faire un suivi, travaillent en synergie avec la Bousseco, avec ces grossistes qui représentent Bousseco auprès des différentes provinces pour travailler stratégiquement et systématiquement. En ce qui concerne la régulation et le suivi du prix de ciment Bousseco.
Je l'avais dit dans les titres, le Bureau burundais de normalisation affirme que les boissons produites par la Brarudi ont changé de qualité. Le directeur général du BBN dit que des enquêtes ont été menées après que le ministère du Commerce ait appelé cette entreprise à se ressaisir sur la qualité de certaines catégories de sel importées. Docteur Jean-Félix Karikorobo indique que le sel vendu actuellement sur le marché remplit les normes. Suivez-le.
En matière de la qualité, donc rien n'a changé. Quand même, c'est visible que la teneur en éthanol, qui est l'élément responsable profondément du goût de la bière, pour le premier, quand même, ça se voit que ça a un peu diminué, allant de 4,5 à 4. Pour la Munster Bock, ça commençait aussi à diminuer de 6 à 5. Pour la Munster moderne, qui est la Munster longue, ça a quitté de 5,3 vers 4,8. Mais vous comprenez qu'en matière de goût, il n'a altération est remarquable, mais quand même en matière de la qualité, rien n'est évident. Ça ne peut en aucun cas compromettre la santé du consommateur.
C'était le directeur général du Bureau burundais de normalisation, Dr. Jean-Félix Karikurubu, qui sera l'invité de ce journal. Et en bref, le gouvernement burundais a récemment octroyé 20 chars de combat à ses militaires en mission de maintien de la paix en Somalie lors d'une visite de ce matériel de guerre mardi, écrit le centre d'information de la MISOM. Le représentant spécial de l'Union africaine en Somalie, ambassadeur Francesco Madeira, a expliqué que ce matériel est très cher et remercie ainsi le gouvernement burundais qui a pensé à la sécurisation de ses troupes. De son côté, le général de brigade Richard Banyankimbona, commandant du contingent burundais en Somalie, a précisé que ces chars de combat aideront à sécuriser différentes institutions et des civils en général. Notons que la présence des troupes burundaises en Somalie date de 2007, aux côtés de celles du Kenya, de l'Ouganda, de Djibouti et de l'Éthiopie. Le Burundi occupe le secteur 5 dans la région de Hirshabelle. En bref, toujours, l'équipe nationale burundaise Intamba Murugamba se dit prête à affronter deux matchs éliminatoires de la CAN 2021 qui se tiendra au Cameroun. Le sélectionneur de l'équipe nationale l'a dit dans une conférence de presse animée ce jeudi. Alain Olivier Niyongeko fait savoir que de nouveaux joueurs ont été convoqués dans le but de renforcer l'équipe et de remplacer les joueurs qui ont affiché des lacunes dans les récentes compétitions de la CAN qui se sont tenues en Égypte. Une courte pause et c'est pour parler des femmes.
Parlons femmes.
Des femmes fonctionnaires de la commune Nyabitsinda en province Ruyigi disent qu'il existe encore certaines d'entre elles mises à l'écart de la gestion de leurs biens familiaux. Elles partent de l'exemple d'un mari qui retire de l'argent sur le compte de sa femme pour ses propres fins. Le coordinateur du Centre de développement familial et communautaire au sein de dans la province de Ruyigi déplore que ce comportement soit à l'origine de la pauvreté dans les ménages. Dominique Havdarimana appelle tous les conjoints à travailler en synergie pour le développement durable de leur foyer. Vestine Boutoui.
Une de ces femmes fonctionnaires de la commune Nyabitsinda en province de Ruyigi indique que même s'il y a celles qui sont impliquées dans la gestion des biens de leur foyer, il y en a d'autres qui sont mises à l'écart. Elle donne l'exemple des maris qui retirent mensuellement de l'argent sur le compte de son épouse sans toutefois l'en aviser.
Il y a souvent des maris qui obligent leurs épouses de les admettre comme leurs mandataires des comptes bancaires et dans ce cas, c'est lui qui retire mensuellement le salaire de sa femme. Après le retrait de cet argent, il va l'utiliser comme il veut, sans même informer sa femme, car explique-t-il, c'est lui qui planifie tout.
Un homme fonctionnaire résidant dans cette localité confirme ce fait. Il explique que des fois, la femme qui vit dans ces conditions ne saura jamais ni son salaire mensuel exact, ni à quoi sert son salaire.
Quand la femme n'a pas le droit d'utiliser l'argent dans le ménage, sous-entend que l'homme va utiliser cet argent dans les projets qui ne sont pas connus par sa femme, sous-entend qu'elle ne peut pas faire une chose remarquable dans la famille, mais souvent, elle va passer plusieurs heures dans les cabarets.
Le coordinateur du centre de développement familial et communautaire au sein de la province de Ruyigi fait savoir que la non-implication de la femme fonctionnaire dans la gestion des biens familiaux entraîne beaucoup de conséquences, entre autres le sous-développement et la séparation des conjoints.
Toute chose qui amène un conflit doit avoir des conséquences au niveau de la vie du ménage. Ça peut aussi causer la séparation, et ça peut aussi augmenter les violences sexuelles basées sur le genre, mais aussi ça peut influencer l'éducation des enfants. Par exemple, les enfants qui vivent dans un ménage où il y a toujours des bagarres, psychologiquement, ils vont développer cette tendance d'atrocité.
Dominique Havdarimana appelle les couples fonctionnaires à conjuguer leurs efforts pour un meilleur avenir et à être des bons exemples dans leur communauté.
En principe, pour être intellectuel, il faut aussi être un exemple au niveau de la communauté. Alors moi, je conseillerais à ce que au moins les ménages qui se disent intellectuels, qu'ils soient aussi exemplaires au niveau de la communauté. Sinon, si on se dit intellectuel et qu'on commet toujours des bavures au niveau de la communauté, ça devient un problème.
Quant au conseiller principal du gouverneur de la province Ruyigi, Valérie Nkunzimana, le rapport est d'organiser des sensibilisations sur l'avantage d'un travail collectif à l'endroit de tous les conjoints en vue d'éradiquer la mise à l'écart de la femme et de la gestion des biens de leur foyer.
Vestine Boutoui. Également dans l'actualité, la permanence du parti CNL sur la colline Magamba de la commune Nyabihanga en province Mngaro a été incendiée cette nuit. Le représentant de ce parti en province Mngaro, Fabien Mahera, dit que cette permanence allait être inaugurée ce week-end. Dans la matinée de ce jeudi, les autorités administratives et policières se sont rendues sur cette colline. Le commissaire provincial de la police à Mngaro, Agaton Kassa, confirme que cette permanence a été incendiée, mais précise que les auteurs de cet acte ne sont pas encore connus. Et le parti CNL, Congrès national pour la liberté, dénonce ce qu'il qualifie de recrudescence du harcèlement des militants de ce parti. Dans un point de presse animé ce jeudi, le porte-parole de ce parti, Terence Manirambona, a dénombré plus de 200 membres de cette formation politique qui sont incarcérés. Il regrette que des initiatives du ministère de l'Intérieur d'assainir l'espace politique soient restées sans effet. Moïse Misako.
Dans ce point de presse, le porte-parole de cette formation politique dit que les militants de ce parti subissent des intimidations et du harcèlement politique. Terence Manirambona dénombre plus de 200 militants de ce parti incarcérés, dont plus de la moitié sont issus de la province de Bujumbura.
L'objet de la présente déclaration est de dénoncer et de porter à la connaissance du public, tant national qu'international, la recrudescence du harcèlement des militants du parti CNL et le verrouillage de l'espace politique qui atteignent une ampleur inégalée à l'approche des élections générales de 2020. Sur l'ensemble du territoire national, le parti CNL dénombre plus de 200 militants emprisonnés dans les prisons et cachots. Leurs dossiers sont relégués aux oubliettes pour des raisons politiques. Les provinces les plus touchées étant Bujumbura, qui à elle seule enregistre plus d'une centaine. Ngozi, Kirundo, Gitega, Karusi, Rumonge, Kayanza, Chibitoke, Muyinga.
Le porte-parole du CNL regrette que les initiatives du ministère de l'Intérieur d'apaiser le climat politique restent sans effet. Terence Manirambona demande au gouvernement de libérer les militants de ce parti qui sont victimes de leur opinion politique, ajoutait-il.
Le parti CNL regrette que l'initiative du ministre de l'Intérieur de la formation patriotique et du développement local, d'évaluer mensuellement le climat politique manque d'effets positifs sur le terrain et que par contre ce forum offre une opportunité à certains administratifs et responsables des partis politiques de porter des accusations tant gratuites que fallacieuses contre le parti CNL. Le parti CNL demande au gouvernement de libérer tout les prisonniers d'opinion politique injustement incarcérés, afin qu'ils jouissent des droits et libertés civiles et politiques consacrés par la Constitution burundaise. De mettre sur pied un mécanisme de vérification des faits par des commissions mixtes.
Le Congrès national pour la liberté donne un effectif de plus de 50 permanences qui sont détruites ou vandalisées dans tout le pays.
Merci Moïse Misago. Et en bref, avant de recevoir notre invité, c'est Dr Jean-Félix Karikurubu qui est le directeur général du Bureau burundais de normalisation. Certains habitants de la zone de Nyakabiga, mairie de Bujumbura, s'inquiètent. Des immondices chargées dans les camions garés devant les bureaux de la zone depuis deux semaines déjà. Ces habitants disent ne pas comprendre pourquoi ces véhicules restent garés à cet endroit sans que rien ne soit fait. Ce problème serait dû au manque de dépotoir, selon un des agents d'une association chargée de dégager ces immondices. Et quatre journalistes du groupe de Pressiwatchu et leur chauffeur sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Ils sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier alors qu'ils étaient en reportage sur l'insécurité qui prévalait en commune Musigati de la province de Bubanza. Leurs avocats ont interjeté appel lundi devant la cour d'appel de Nahangwa pour annuler la décision rendue par la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bubanza de maintenir en détention préventive ses reporters et leurs chauffeurs. Les organisations internationales Reporters sans frontières et Human Rights Watch condamnent ces arrestations et plaident pour la libération de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Egide Harerimana, Terence Mozenzi ainsi que leur chauffeur Adolphe Masabarakiza. Dans un communiqué de presse du 31 octobre, le procureur général de la République a indiqué que nos confrères n'ont pas été appréhendés parce qu'ils sont journalistes, mais plutôt par les faits leur reprochés.
À la source, interview.
Nous recevons le directeur général du Bureau burundais de normalisation, Dr Jean-Félix Karikurubu. Il s'entretient avec Aubin Niyonguru et c'est sur les résultats des enquêtes menées auprès de la Brarudi quant à la qualité de ses produits et aussi du sel importé.
Docteur Jean-Félix Kalikourou, vous êtes directeur général du bureau burundais de normalisation et vous êtes aussi professeur d'université. Bonjour.
Bonjour.
Il y a le ministère du Commerce qui a récemment sorti un communiqué à travers lequel il dit que la qualité de certaines boissons de la Burundi n'est plus bonne. Quel a été le résultat de vos investigations?
Il y a eu certaines altérations liées aux formes et au fond et surtout sur le goût, mais en matière de la qualité, donc rien n'a changé. Quand même, c'est visible que la teneur en éthanol, qui est l'élément responsable profondément du goût de la bière, pour le primus, quand même, ça se voit que ça a un peu diminué, allant de 4,5 à 4. Pour la moustère Bock, ça commençait aussi à diminuer de 6 à 5. Pour la moustère moderne, qui est la moustère longue, ça a quitté de 5,3 vers 4,8. Mais vous comprenez qu'en matière de goût, une altération est remarquable, mais quand même en matière de la qualité, rien n'est évident. Ça ne peut en aucun cas compromettre la santé du consommateur.
Et à propos des boissons non alcoolisées,
les produits fabriqués par la Burundi ont des teneurs en paramètres qui rentrent globalement dans la norme. Mais quand même, on voit que la teneur en sucre est de l'ordre de 10 à 12. Quand même, si on analyse le contexte international de la fabrication des produits non alcoolisés, il y a généralement l'utilisation des édulcorants qui sont des produits plus sucrés que le sucre et qui demandent l'ajout d'une très petite quantité pour un peu corriger le degré de sucrerie.
Et qui avait approché, je dis, la Burundi, est-ce que c'était dû à une erreur technique ou tout simplement une erreur humaine?
Nous n'avons pas fait une audite approfondie, mais les questions qu'on leur a lancées ont prouvé qu'il est difficile d'accepter une erreur, mais généralement, pratiquement, ça se voit que les analyses le démontrent. Je crois qu'ils vont réagir pour un peu corriger.
Le ministre a aussi dit que la qualité du sel importé, il a notamment cité le sel dit Chumvinzuri. Et comment a été le résultat de vos enquêtes?
On est à l'application des décisions qui ont été émises par son Excellence, Monsieur le ministre en charge du commerce, c'est-à-dire que le sel qui pénètre sur le territoire national doivent avoir des teneurs en sel minéraux conformément à la norme EAS 35-2012.
Est-ce que la BPN a du matériel suffisant pour détecter les qualités des produits qui se sont importés ou bien produits localement?
Par alors qu'en matière des produits alimentaires, nous avons un laboratoire suffisamment équipé, mais quand même, dans un contexte général, le chemin est encore long, mais quand même, ce qui est évident, c'est que le gouvernement a déjà compris la donne et les partenaires économiques ont pris raison pour laquelle d'ici quelques mois, le bureau sera suffisamment équipé en matériel de laboratoire.
Oui, docteur Jean-Félix Kalikourou, vous êtes directeur général du bureau burundais de normalisation. Je vous remercie.
Moi aussi, je vous remercie.
Et c'est sur cette interview que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne journée à l'écoute de nos programmes.